Conférence privée par le Père Philippe à Saint-Joseph, le 25 décembre 1986.
Il se met à la remorque de la vision théardienne. empêcher de dire des choses qui sont complètement contraires à l'enseignement actuel du pape. Puisque le pape a repris lui-même le mercredi cette question du péché originel. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il sait que c'est un de ses obstacles les plus forts aujourd'hui. Or, toute la question du péché originel, oui, il est lié au corps. C'est évident que le corps est le moyen dont Dieu s'est servi, dont Dieu se sert pour nous punir. Nous punir d'être des descendants d'Adam. On n'en peut rien, c'est comme ça. Il s'est servi du corps, puisque c'est par la transmission corporelle que le péché originel se transmet. Et on voudrait bien trouver un autre moyen que celui-là. Le concile de Trente est net. Et Paul VI avait déjà dit, sitôt le concile, il y a eu des réunions de théologiens à la grégorienne pour essayer de reprendre cette question du péché originel. Et Paul VI, qui ne se déplaçait pas très souvent, ce serait notre pape actuel, si on comprendrait. Mais Paul VI ne se déplaçait pas beaucoup. Et Paul VI s'est déplacé pour aller dire à ses théologiens, vous n'avez pas le droit d'oublier le concile de Trente. Le concile de Trente fait partie de l'enseignement actuel de l'Église. Et donc, vous ne pouvez pas expliquer, du moins tenter de dire ce qu'est le péché originel en oubliant le concile de Trente. Or, le concile de Trente est très formel. Il reprend ce que dit saint Thomas, pratiquement. En simplifiant un peu. Mais il reprend ce que dit saint Thomas. C'est que le péché originel se transmet par le point de vue de la procréation. Les parents qui transmettent la vie transmettent en même temps toute la vie. Parce que c'est un torrent assez impétueux, l'espèce humaine. C'est le plus impétueux de tous les animaux. Et comme il monte de très haut, il charrie des tas de choses. Et il charrie justement le péché originel. Et en transmettant la vie, les parents transmettent la faute première. C'est une faute. Et avec la faute, toutes les conséquences de la faute, tout le déséquilibre des trois concupiscences. Ça, c'est l'enseignement de l'Église. On n'a pas le droit d'inventer là-dessus. Au nom de Théard, de dire que c'est impossible, il faut expliquer ça autrement. Au nom de l'évolution. Mais l'évolution n'est pas une doctrine au sens absolu, c'est une théorie. Ça peut changer, et ça changera, sûrement, sûrement. Alors, il faut essayer de comprendre ce que dit saint Thomas, et c'est très beau. Vous voyez, c'est toujours en mettant le parallélisme entre les deux Adams, c'est pour ça que c'est si important de comprendre le lien de Jésus avec Adam. Le parallélisme entre les deux Adams, les deux chefs de l'humanité. L'un qui nous a mis dans une situation assez pénible, et l'autre qui est notre libérateur, notre sauveur, celui qui nous fait enfant de Dieu. Et c'est vrai, Adam a péché. Et comme il était chef de l'humanité, son péché s'est transmis. Et voyez, c'est ça qu'il faut bien comprendre quand on est en face d'un savant. Plus ou moins de tendance d'évolution, parce que pratiquement tous les savants aujourd'hui sont à tendance évolutionniste. Sauf, comme me disait un histologue à Fribourg, nous ne sommes pas du côté de l'évolution comme histologue. Parce que nous ne l'avons jamais constaté. Alors on dit, c'est une théorie philosophique. Aussi, j'aime beaucoup d'entendre ça, parce que moi, quand je suis du côté des philosophes, on me dit, c'est une théorie scientifique. Alors quand, d'un côté des Alpes, on dit blanc, et de l'autre côté des Alpes, on dit noir, ça prouve quelque chose qui ne va pas. Les savants disent, c'est une vision philosophique. Et les philosophes disent, c'est une vision scientifique. Ça prouve que c'est un mixte. C'est ni scientifique ni philosophique. C'est une invention qui est très astucieuse, qui est extrêmement astucieuse. Parce que c'est évident que si vous poussez l'évolution jusqu'au bout, Adam disparaît dans sa dignité. Or, c'est justement cela que l'Église nous maintient. Adam n'a aucune signification scientifique. Aucune. Adam n'a une signification que pour le croyant. Uniquement. Et pour le croyant, il est chef de file. Dieu l'a voulu comme ça. Et c'est très curieux de voir que dans l'Écriture, vous voyez, Adam a pris toute sa valeur à partir du Christ. C'est le Christ qui éclaire Adam. C'est pas Adam qui éclaire le Christ, c'est le Christ qui éclaire Adam. Et ça explique pourquoi, dans la première révélation, dans l'Ancien Testament, le péché originel n'est pas affirmé de façon explicite. C'est l'épître aux Romains, fameuse épître aux Romains, qui dit la chose avec la plus grande force. Et des textes qui sont marqués à la manière de saint Paul, c'est marqué avec une force étonnante. Ils ont tous péché dans la première désobéissance. Et puis alors, le Christ, le Sauveur, et le parallélisme entre les deux. Vous voyez, le mystère du Christ éclaire Adam. C'est du reste très normal, parce que le premier plan de Dieu a été tellement enfoui par le déluge. Le premier plan de Dieu, la première vision de Dieu sur l'homme et la femme a été tellement abîmée successivement par toutes les conséquences du péché, jusqu'au déluge. Le déluge représente quelque chose de catastrophique. Dieu a un dégoût de l'humanité. Pour un père, avoir un dégoût de son fils, faut que le fils en ait fait pas mal. Hein. Il a un dégoût. Et s'il le pouvait, il le supprimerait, il le gommerait. C'est très important parce que les pères de l'Église voient toujours ce moment-là comme le moment caractéristique de la venue du Christ. Le Christ est venu au moment où l'humanité dégringolait. Il y a une espèce de dégringolade de l'humanité qui va jusqu'au déluge. Et c'est la même chose après, à l'intérieur du peuple d'Israël. Il y a une dégringolade d'Abraham. L'homme a une peine énorme de se tenir debout. Vous voyez, on pourrait dire, dans la vision de l'Écriture, c'est comme ça. Adam, c'est quelqu'un de très grand dans la vision chrétienne. C'est un prince. Prince de l'humanité. Il est roi de l'humanité, Adam. Il ne faut pas être monarchiste, là. C'est quelque chose de... Il est roi de l'humanité, Adam. Parce qu'il est prince. Il est premier. Il est source de toute l'humanité. Alors ça, évidemment, si vous n'avez qu'une vision démocratique, vous ne comprendrez jamais Adam. Mais c'est très intéressant, parce que ça montre très bien qu'il y a certaines choses très fondamentales qui se perdent. On est baigné dans une certaine vision. Tous, évolutionnistes, tous, on est baigné de ça. Positivisme, évolutionnisme, démocratie. D'une façon telle qu'on n'arrive jamais plus à comprendre autre chose. Il faut montrer que la démocratie, c'est un aspect, mais qu'il y a d'autres choses. comprenons bien, quand je dis qu'Adam est roi, ça veut dire qu'il est prince, il est premier, responsable de tout ce qui viendra après. Le premier dans un genre est mesure et cause de tout ce qui vient après. Ce principe que saint Thomas reprend constamment. Le premier dans un genre est cause exemplaire, mesure, et cause de tout le reste. Tout le reste dépend de lui. Alors, Adam, parce qu'il est responsable de toute l'humanité est en Adam. Pas commode à comprendre. Parce qu'il est le prince. Il est responsable. Oui, au point de vue moral, on peut comprendre ça. Il est responsable de toute l'humanité. Il est dans un état de grâce. C'est ça qu'il faut comprendre. Un état de grâce. Un état de grandeur, de majesté. C'est le chef-d'œuvre de Dieu, quand même. Il ne faut pas l'oublier. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Dieu a voulu continuer son œuvre de créateur au-delà des anges pour atteindre Adam. Alors, le corps d'Adam. Le corps d'Adam. Il a été façonné par Dieu. C'est dit ça. Alors voyez là tout de suite, hein, c'est intéressant parce que si je suis du côté biblique, il a été façonné par Dieu. Ce qui pour ça, c'est pour ça que pour comprendre le corps d'Adam. Et si je suis docile au texte, l'analogie, c'est l'analogie de l'art. Voyez, la grande erreur pour nous aujourd'hui, c'est d'oublier l'art. Et de ne regarder que la science. On veut expliquer Adam. On veut expliquer le corps d'Adam. Par des données purement scientifiques. Oubliant que le corps d'Adam est une œuvre d'art. Quand vous commencez à expliquer les œuvres d'art d'un point de vue scientifique, les artistes rigolent. Comme des fous. Et ils ont raison. Parce qu'il dit esprit de géométrie. Esprit de finesse. C'est ça l'artiste, comparativement à celui qui mesure. C'est l'esprit de finesse. Il y a des choses que le savant ne comprendra jamais dans l'art. Jamais. S'il veut regarder les œuvres d'art d'un point de vue scientifique. Je vous ai une quantité d'anecdotes là-dessus, parce que c'est tellement intéressant de comprendre ça, que le corps d'Adam, c'est Dieu qui l'a façonné. Ah, on dit bien que Dieu l'a pensé dans sa sagesse. Mais il y a la sagesse et l'art de Dieu. La sagesse, c'est Dieu qui pense premier. Premier récit de la création, c'est la sagesse. Second récit, c'est l'art. Il y a les deux analogies. Premier récit, sagesse. Second récit, l'art. Et Dieu a façonné le corps de l'homme. Et lui insuffla une haleine de vie. Voyez comme on voit bien le créateur, artiste. Et le Père, il lui insuffla une haleine de vie. Alors, il ne faut pas séparer, il faut distinguer. Il ne faut pas dire deux créations. Non, non, une création. Mais nous sommes devant un mystère qui nous dépasse. Vous n'arriverez jamais à saisir l'acte créateur de Dieu. Parce que c'est quelque chose qui vous dépasse complètement. Dieu est au-delà de nous. Dieu seul comprend son acte créateur. Vous voyez les effets. Et vous mettez du côté de celui qui voit les effets. Et qui se sert toujours de deux analogies. La sagesse et l'art. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On croit pouvoir parler d'Adam par une méthode purement scientifique. Il faut donc, dès le début, dire que la méthode scientifique ne pourra jamais rien nous dire du corps d'Adam. Une fois que vous avez dit ça, vous avez compris ça, ben vous laissez tout le reste, ça n'a pas d'importance. On sait qu'on ne peut pas. Le corps d'Adam est un chef-d'œuvre de Dieu. Le corps est l'âme, le corps vivant d'Adam. dépendra. Et saint Thomas dit que par rapport à Adam, toute l'humanité est comme un homme. Il y a une unité. L'unité de la race humaine qui fait qu'elle est toute relative à Adam. Il y a un double mouvement. Adam est source et toute l'humanité, avant la péché, dans la vision première de Dieu. Cette première vision, encore une fois, qui historiquement est complètement perdue. Je vous dis, il y a eu le déluge entre deux. Il ne reste plus grand-chose comme meuble. Vous savez, les dents d'Adam sont perdues dans le déluge. Tout ce qu'Adam a pu faire, c'est complètement perdu. Complètement. Vous n'arriverez jamais à redécouvrir le crâne d'Adam. Jamais. Il y a eu le déluge entre eux. On sait. Mais si c'est perdu historiquement, cela n'empêche pas que ça existait. Que c'est quelque chose qui, dans la sagesse de Dieu, a existé. Si donc je veux comprendre, dans une vision théologique et de théologie de l'économie divine, ce premier moment, il est capital. Si vous commencez au second ou bien au premier, vous ne comprendrez plus rien. Mais c'est ça qui est très difficile dans une théologie de l'économie divine. C'est que dans une théologie de l'économie divine, or le Concile nous demande de tout reprendre dans une théologie de l'économie divine. Ça, le Concile le demande. Il demande de revenir pour assumer tout ce que les pères de l'Église ont dit, en tenant compte de saint Thomas. Or, dans la théologie de l'économie divine, ce premier moment est indispensable. Si je ne le vois pas, je ne comprends plus rien après. Et saint Paul nous le rappelle, puisqu'il met en parallèle le Christ et Adam. Alors, voyez, la première chose, c'est la formation du corps du Christ et la formation du corps d'Adam. Et ça, je crois, vous voyez, qu'en vivant le mystère de Noël, si on y réfléchit au plan théologique, votre contemplation avec Marie, elle n'a plus besoin de penser à Adam. Est-ce que Marie pensait à Adam auprès de l'enfant Jésus ? Mais le théologien doit y penser. Il doit comprendre que cette première vision de Dieu a été complètement enfouie par le péché. C'est pour ça que je m'exprime déluge, parce que le déluge représente un maximum d'aller dans l'ordre du péché. Et c'est toujours ce qui intéresse le philosophe et ce qui intéresse le théologien. Vous voyez, c'est la chute. Vous pouvez mettre ici, à un moment où l'humanité est terriblement bas. Je crois que quand vous redécouvrez ici les crânes de l'humanité, c'est pas fameux. C'est pas fameux du tout. Je crois que les crânes qu'on découvre à partir du déluge, c'est un dégoût. Il ne voit même plus l'image de Dieu dans l'homme. L'homme est devenu tellement bestial, livré à lui-même. Il a dégringolé. Il ne pensait qu'à s'amuser. C'était dans l'écriture du reste. Hein. C'est absolument. Il ne pensait que uniquement ça. Alors, il y a le bas fond de l'humanité qui nous est révélé, le moment du déluge. Ce moment du déluge, il se reprend le bas fond du peuple d'Israël. Hein, parce que tout a été repris d'une façon spirituelle avec Abraham. Alors évidemment, le corps d'Abraham m'intéresse beaucoup moins que le corps d'Adam, puisqu'il est dans la série. Au point de vue corps, ça ne m'apprend rien du tout, le corps d'Adam. Le corps d'Abraham, je dis rien du tout. C'est pas ça qui m'intéresse, il a 75 ans. C'est pas le petit Adam, c'est le petit Abraham. Ils sont les premiers qui sont intéressants. Dans l'ordre de la théologie, de l'économie divine, c'est les premiers qui sont intéressants. Le premier corps, Adam, ça c'est le premier corps. Et c'est le corps d'Adam qui est le premier corps. Et du corps d'Adam, il va y avoir Ève, puisqu'au fond, il y aura les deux. Et ils sont liés dans la vision de la sagesse de Dieu. Ils sont liés. Et on voit très bien le couple. Parce que dès qu'il s'agit du point de vue du corps, c'est le couple, tout de suite. Pour qu'il soit source de vie. Et Dieu l'a voulu comme ça, pour qu'il soit source de vie. Qu'il soit responsable, co-responsable. Ils sont co-responsables de toute l'humanité. Et c'est Ève qui a dévié la première. Et Adam a suivi. Et alors la déviation va tellement loin que ça va jusqu'au déluge. Alors là, vous êtes aussi, vous voyez, vous n'êtes plus dans un premier, vous êtes dans le creux, l'abîme du déluge. C'est intéressant de saisir le plus bas d'Adam, d'Abraham. On va, tout le peuple d'Israël dépend d'Abraham, est relatif à Abraham. Il y a quelque chose de parallèle entre Adam et Abraham. Abraham, ce n'est pas au niveau du corps, c'est au niveau de la foi. C'est quand même très curieux, ça. Et comme la sagesse de Dieu ordonne, et que la sagesse de Dieu aime les premiers, le premier dans un genre donné est mesuré qu'aux des autres. Abraham est premier dans l'ordre de la foi. Et il y a la dégringolade. On n'arrive pas à se maintenir à la foi d'Abraham. La dégringolade qui va jusqu'au déluge. L'analogue du déluge, le moment où le Christ apparaît. Les pères de l'Église font un parallélisme entre les deux. Et c'est ça, c'est très intéressant. C'est tous les moments de crise. Le Christ apparaît comme premier, tête, chef, roi. Tout est repris dans le Christ. L'Église continue. L'Église, elle vient du Christ et elle retourne au Christ. Vous voyez les trois mouvements. Il faut toujours voir ça en parallèle. Autrement, on ne comprend rien. Adam, Abraham, le Christ. Et puis nous sommes où, nous, hein? La crise. Je ne sais pas, mais j'ai envie de mettre ici comme ça. Parce qu'elle est fameuse, vous savez. Dire que l'Église a toujours été en crise comme maintenant, c'est faux. Parce que ce sont les alliances fondamentales qui sont secouées. Le pape l'a redit l'autre jour, paraît-il. Paul VI avait raison. Le feu de l'enfer est pénétré dans l'Église. Il a repris les expressions de Paul VI. Parce qu'on dit Paul VI était pessimiste. Il était... Tandis que notre pape actuellement n'est pas pessimiste. Il a dit qu'il avait raison. Sont des tremblements apocalyptiques. Pourquoi ? Parce que les deux alliances fondamentales, et ça c'est important, les deux alliances fondamentales de l'humanité, c'est d'une part, parce que c'est ça la crise, c'est quand les fondements sont secoués, quand le clocher est secoué, quand il y a des tornades, alors vous le voyez bouger, hein. C'est pas inquiétant. Les fondations commencent à bouger. Ça, c'est très grave. Or, il y a deux alliances naturelles, fondamentales. L'une du côté du corps, la fécondité. L'alliance de l'homme et de la femme dans la procréation. Donc, la procréation. On ne peut pas nier que c'est quand même tout à fait nouveau, ça. On touche actuellement au corps de l'homme et on voudrait le transformer. Et on fait des transformations invraisemblables du corps de l'homme. On ne respecte plus le corps de l'homme. Et on voudrait faire des mutations, des expériences. tout pas vrai. Et on essaie de faire ça. Donc on touche à des choses qu'on n'a jamais touchées. Parce que ça, je crois que c'est quand même très important. Il faut quand même être lucide vis-à-vis de ce que nous vivons. Alors, il y a des tas de choses qui ont toujours existé, mais l'attaque violente...
Respecte le corps parce que
quelle l'âme a habité. Alors quand il n'y a plus, or aujourd'hui, hélas, troisième conséquence, vous n'avez qu'à regarder ce que deviennent les sépultures. Ce que me racontait à Genève, vous demandez au père Marie-Alain de vous raconter ce qui se passe au point de vue des sépultures. C'est un volant. Littéralement un volant. On ne veut plus.
Est-ce qu'un chrétien, par exemple, a le droit de se faire incinérer ?
Oui, l'Église a permis récemment. C'est une permission de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire. Hein. Ça ne mettait pas ça dans votre testament. C'est un petit peu gênant. L'Église a permis. Mais c'est très curieux pour des motifs. Vous voyez ? Mais ce n'est pas du tout dans le sens de la tradition. Pas du tout. Ça, on peut le dire. Vous voyez ? C'est pas contre la foi, on comprend très bien. Mais c'est contre l'esprit religieux. Vous voyez ? Et contre un sens religieux par rapport au corps. Et c'est pour ça que moi, ça blesse toujours un peu, ça. Vous voyez ? Abraham achète une sépulture pour Sarah. C'est l'enracinement dans le sol se fait par la sépulture. Dans tout couvent, avoir son cimetière. Ça, c'est sûr. Vous voyez la petite croix des sœurs, c'est le cimetière. C'est le cimetière. C'est important. Dans le cloître des morts, ça fait partie, vous voyez. La famille est comme ça, là. On a besoin, c'est important. Si on veut aller jusqu'au bout de la théologie du corps, il faut regarder la sépulture. Il faut regarder la mort. Parce que la mort, brisure, le corps demeure, la conception et la mort. Et la sépulture. Vous voyez, il y a quelque chose d'important. Les preambula corporis. L'âme créée dans le corps, la mort et la sépulture. Si je regarde tout le point de vue du corps, alors je reprends, vous comprenez, si on est ici, c'est possible. Hein? 1, 2, 3, ça ne m'étonnerait pas. Je ne peux pas dire plus. Je dis simplement, et soyez attentifs, c'est possible. On est dans la dernière semaine de l'Église. Donc, on est à un moment de crise qui va beaucoup plus loin qu'on ne pense. Parce que elle touche ses deux premières alliances. Et elle touche l'alliance avec Abraham. Les deux premières, on voit très bien, c'est Abraham. C'est Adam, je veux dire. Elle touche celle d'Abraham. Toute l'herméneutique sur la parole de Dieu. Je la mettrai ici, moi. Allez, au point de vue de la foi et le mystère de la parole. C'est pour ça que c'est si important de comprendre ce que c'est que la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'interprétation, l'herméneutique, ce qu'on appelle l'herméneutique, on vous apprendra exactement ce que c'est que l'herméneutique. C'est très important de bien voir que c'est le petit Goldman là-dessus. Ce que dit Heidegger là-dessus, l'herméneutique, ça a commencé par l'interprétation d'une œuvre d'art, le sphinx. C'est ce que dit Heidegger. Heidegger dit tout simplement, le sphinx, vous ne pouvez le comprendre que si vous regardez tout le milieu de la culture dans lequel il apparaît, ce qui est très vrai. Et on transpose ça à la parole de Dieu, comme si la parole de Dieu était une œuvre d'art. La parole de Dieu n'est pas une œuvre d'art. C'est un moyen de transmission. Et la parole renvoie à la sagesse. Et alors c'est très curieux. Il y a une espèce de on brouille tout, vous voyez. On essaie d'expliquer le corps par la science. On essaie d'expliquer la parole par la science. Tout le temps, tout le temps. C'est la primauté absolue de la science. On est dans l'ère absolument du positivisme. Et on veut tout expliquer par la méthode. Et la méthode est première, puisque c'est ça le propre de la science. C'est la méthode qui est première. Et ce n'est plus la réalité qu'on atteint. L'intelligence est enfermée dans les méthodes. Enfermée dans les méthodes. Il faut faut avoir des méthodes, c'est évident. Si on veut passer des licences, il faut avoir des méthodes, impossible autrement. Mais la méthode sert à passer des sciences, des licences, des examens. L'intelligence vit dans le contact avec le réel. La foi vit dans le contact avec le mystère. Et c'est le mystère qui le fait. Donc, les brisures, et je crois qu'on est en présence. Et alors, on comprend très bien comment, à partir de là, la Vierge Marie est là pour préparer le retour. Et le retour, c'est le corps glorieux du Christ. Et c'est encore le corps glorieux. Voyez comment vous arrivez à ponctuer. Très mystérieusement, mais alors il faut bien comprendre que Adam, responsable de toute l'humanité, l'humanité est comme un seul homme. Et c'est pour ça que la faute d'Adam est présente dans tous les descendants d'Adam. Et saint Thomas fait l'analogie de l'homme, tout simplement. Quand je tue quelqu'un avec un poignard, c'est ma main qui fait ça. Et si on vient vous dire, hein, vous l'avez tué, ah non, j'ai pas tué, c'est pas moi, c'est ma main. Je dirais, mais votre main, elle est téléguidée. Et elle répond à ce que vous avez eu comme intention. Oui, vous coupez votre main, du reste. Très bien, coupez-la. Il ne vous dirait pas jusque-là, vous dira, non, c'est ma main, c'est votre main. Et donc, c'est bien votre main qui a exécuté l'acte volontaire. Vous coupez. Alors, voyez, ce qu'on veut faire aujourd'hui, on coupe chaque individu de sa source. Alors que pour saint Thomas, si cette grande analogie, l'acte volontaire passe à travers tous les gestes. Et tous les gestes sont liés à l'intention. Et c'est pour ça qu'il dit que toute l'humanité est comme un seul homme en Adam. Et ceci alors, on le comprend, avec le Christ, on aura le corps mystique. Le corps mystique, c'est toute l'Église dans le Christ. Le corps mystique, c'est la grâce qui reprend tout et qui reprend aussi le corps. Parce qu'un jour, ce pauvre corps qui a été instrument de transmission du péché, ce pauvre corps qui est repris par la grâce sera un corps glorifié. Et je comprends que c'est la glorification du corps qui fait comprendre ce que c'est que le jugement dernier. Puisqu'aujourd'hui, on n'en veut plus du jugement dernier. Le jugement dernier, c'est par rapport au corps glorifié. On aura un petit jugement particulier. Vous avez bien la rencontre avec Saint-Pierre. On aura un petit jugement particulier pour chacun d'entre nous. Au moment de la mort, c'est sûr. On aura ce jugement particulier. Mais il y a le jugement général. Le jugement particulier, c'est au niveau de notre âme. Et le jugement général, c'est par rapport au corps. C'est extraordinaire de voir ça. C'est comme ce qu'il y a d'ultime, ce qu'il y a de dernier. Voyez le leitmotiv de toute l'écriture, le corps. Il y a l'âme, c'était bien évident. Mais c'est inséparablement, je ne peux pas séparer les deux, parce que Dieu les a unis. Je ne peux pas séparer ce que Dieu a uni. Alors il y a le leitmotiv du corps. Et quand je regarde justement ce leitmotiv du corps, je vois la formation du corps d'Adam. Le comment de la formation du corps d'Adam, je ne sais pas. Et je ne saurai jamais. Mais il y a un symbolisme. Dieu a formé le corps de l'homme. Et s'il est dit que Dieu a formé le corps de l'homme, c'est pour que je comprenne que le corps de l'homme est précieux aux yeux de Dieu. Puisque c'est Dieu qui l'a formé. C'est une œuvre d'art, le corps de l'homme. C'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art pour l'âme qui doit l'informer. C'est le temple construit par Dieu pour l'âme. Doit habiter ce corps, qui doit l'informer. Donc, le premier corps, ensuite le corps du Christ, ensuite le corps glorieux, et entre deux, le pain qui abrite le corps eucharistique du Christ. Bethléem, la maison du pain, faut pas l'oublier, le pain qui abrite, parce que le pain abrite les espèces eucharistiques, les espèces du pain et du vin. Ça abrite, ça manifeste la présence invisible du corps du Christ qui nous est donné dans l'Eucharistie. C'est encore le corps. Vous voyez, cette espèce de grande vision de Dieu. Si le corps était incinéré, ne signifiait rien du tout, que signifie l'Eucharistie ? Du Christ se fait dans son corps. Il donne son corps en nourriture. C'est quand même extraordinaire comme réalisme. Il nous donne son corps en nourriture. Il nous donne son sang. Alors c'est le corps et le sang. Alors là, il y a aussi quelque chose de très important à comprendre. C'est la question du corps et du sang. On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, c'est pourtant très important. Parce que d'une certaine manière, c'est le sang qui fait l'unité du corps. C'est le sang qui fait l'unité du corps. Si le sang n'est plus ce qu'il doit être, le sang vivant, tout le corps s'en ressent. C'est l'unité immanente. Vous voyez, il y a deux unités du corps. Il y a l'âme qui fait l'unité et il y a le sang. Il y a toujours une unité qui transcende, qui mesure, et puis une unité immanente. C'est pour ça qu'il est dit que le sang c'est l'âme, et l'âme est dans le sang, parce que c'est l'unité immanente. Et c'est très vrai ça, il y a quelque chose de très très particulier à saisir dans le point de vue du sang. Vous comprenez, Marie, elle donne son sang pour former le corps du Christ. Saint Thomas donne, et c'est très beau, même si il faudrait préciser au point de vue scientifique, le sang très pur de Marie qui est donné pour la formation du corps du Christ. C'est le. Il y a un lien, et c'est par le sang qu'il y a le lien de Jésus avec Adam, par Marie. Alors, j'allais presque dire que c'est le sang qui est gardé par la mère. C'est pour ça que dit c'est la matière et la fin. On comprend mieux. Et la détermination cause efficiente qui vient préciser. Donc, le sang, tant que le corps est irrigué par le sang et que le sang reste pur, on vit. Tandis que quand le sang n'irrigue plus, il commence à y avoir des membres qui se sclérosent, qui vont plus très bien. Et quand le sang n'est plus assez pur, pas assez purifié, ça va plus. C'est très important, il y a une étude du sang à faire, vous voyez, au niveau biologique et au niveau philosophique, pour bien étudier ce que c'est que le corps, et bien étudier ce que c'est que l'unité du corps, et étudier aussi ce que représente toute la fragilité du corps. Parce que le corps manifeste, le corps implique une fragilité. Capable de souffrir. Elle est capable de souffrir. Et quand ça saigne, ça dit quelque chose. Quand on est blessé, pas pour rien que c'est la blessure, avec le sang qui coule, Il y en a trois qui rendent raison, qui témoignent l'eau, le sang et l'esprit. Alors, il faut saisir cette unité. Et dans le corps mystique, vous voyez, dans le corps mystique, on a le pain et le vin. Symbolisme du corps, symbolisme du sang, le vin. Les deux extrêmes, au point de vue de la nourriture la plus nécessaire et la nourriture de surabondance, le vin. C'est la nourriture la plus nécessaire, la plus surabondante. C'est le luxe de la surabondance, le vin. Alors, les deux. Jusqu'à la mort. Et la mort sanglante.